Je pense qu'il y a quelques années, vous auriez été bien peu à vous douter que les distilleries québécoises prendraient autant de place sur les étagères de la SAQ et aussi sur vos étagères, hein, parce que on a glissé un mot un peu plus tôt, mais les alcools autrefois, par exemple le gin, ben, c'était le Beefeater, c'était le petit monsieur rouge, puis il y avait le Bombay, puis c'était pas mal ça. Puis dans la plupart des alcools, c'était ça. Maintenant, les distilleries au Québec, on les compte par dizaines, les produits, on les compte par dizaines également, avec des palettes de dégustation, avec des cocktails pour les agencer, pour démêler tout ça, pour se préparer aussi pour le temps des fêtes qui approche, évidemment. J'ai avec moi Monsieur Cocktail en personne, Patrice Plante. Salut Patrice.
Salut, salut.
Comment ça va? Merci
d'être bien, là. Très bien.
Tu viens de sortir un bouquin absolument magnifique, tout sur les gins du Québec, qui est littéralement l'encyclopédie des gins au Québec, on pourrait la décrire comme ça?
C'est vraiment bon ce que tu dis parce que c'était le nom original du bouquin.
Oh, OK.
Puis dans nos premières ébauches, dans les premiers communiqués qu'on envoyait aux libraires, ça s'appelait l'encyclopédie des gins québécois. Puis on avait peur que ça fasse un peu trop prétentieux.
OK.
Fait qu'on s'est dit tout sur les gins, ça va bien résumer parce qu'on a tellement mis d'efforts pour qu'il y ait une panoplie de recettes et d'informations. Donc, c'est ça, fait que c'est drôle que tu commences avec l'encyclopédie, ça me fait un petit plaisir.
Ben, c'est un feeling d'encyclopédie, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que t'as l'impression que toute l'information est là. Écoute, ça fait longtemps que tu roules ta bosse dans le domaine de la mixologie, des distilleries, Patrice. Te souviens-tu d'une époque pas si lointaine où est-ce que ça existait à peu près pas, le gin québécois?
Absolument. Ben, en fait, quand j'ai commencé derrière le bar de l'atelier en 2012, Longava traînait quelque part dans ce qu'on appelait le back bar, là, qui n'était pas le speed rail.
Okay.
On n'avait même pas accès, ça fait seulement 9 ans, on n'avait pas accès à la chartreuse, on n'avait pas accès à la liqueur de Maraschino, on n'avait pas accès à certains types d'absinthe. Donc, la majorité des liqueurs aussi qu'on utilise dans les cocktails classiques. Moi, je suis arrivé à l'atelier en 2012, n'ayant jamais travaillé dans un bar de ma vie, mais ayant fait un peu le tour du monde, je suis allé dans les speakeasy, les plus grands bars en Asie, en Europe, et j'avais une auto-formation classique.
Okay.
Tu sais, moi, c'était drôle, les gens me commandaient des petites cochonnes puis des Bloody Brain, puis je regardais les barmans à côté de moi pour dire, les gars, c'est quoi cette affaire-là? Moi, je sais juste faire des Manhattan puis des gimlettes. Donc, à l'époque, oui, je m'en rappelle très bien, ça fait seulement 9 ans, mais on manquait beaucoup de matériel pour faire découvrir. C'était encore beaucoup les grandes marques mondiales, comme tu disais tantôt, le fameux Beefeater, le Bombay, le Gordon.
Ouais.
Et ça a commencé petit à petit, tu sais, 2013, le Pigard Henricus est sorti, le fameux gin de Panay des subversifs. Après ça, Roméo est arrivé avec son gin au concombre, qui, à l'époque, faisait un bel écho au Gin Hendrix. Et 2014, 2015, première distillerie au Grand La Bouteille à Montréal, circa. 2016, on est rendu à Saint-Laurent, vient d'apparaître avec son gin qui goûte les algues du Saint-Laurent. On est à 6, 7, 8 gins. 5 ans plus tard, on est à 185.
C'était quoi l'étincelle à un moment donné qui a fait? Parce que je vois un parallèle. Moi, je suis un maniaque de microbrasserie aussi dans la bière, le milieu brassicole. Ces deux industries qui ont évolué de façon assez parallèle. C'est quoi l'étincelle qui a fait que tout à coup, des entrepreneurs te disent, OK, les Québécois sont prêts à boire mieux, à boire différemment, à boire de façon plus diversifiée?
Absolument. C'est un long processus, je crois, qui démarre de un sur l'appréciation de l'amertume. Fait qu'on aura beau dire ce qu'on veut, mais la microbrasserie, ça vient avec l'IPA.
Oui.
Ça vient avec l'éducation du houblon, de l'amertume. Ensuite, les Starbucks, les cafés italiens, troisième vague, les petits cafés de quartier qui nous ont appris à aimer l'amertume parce qu'on s'entend que le filtre qu'on connaissait au tout début dans les bonnes vieilles machines en plastique, ça goûte pas vraiment amer. Et là, une fois que t'aimes l'amertume, ben tu te rends compte que le tonic, c'est pas mauvais dans le fond. Et qui dit tonic dit gin, bien entendu.
Ouais.
Ça, c'est la première raison, selon moi. Fait que les microbrasseries nous ont beaucoup aidés dans l'explosion. Ensuite, il y a eu l'engouement pour le cocktail. Parce que si tu regardes l'histoire du gin, quand la mixologie est hot, le gin est hot. Puis quand on a oublié la mixologie, comme dans les années 40, 50, 60, les ventes de gin sont ridiculement basses.
Okay.
Donc, avec un spiritueux, un liquide qui est aussi facile à mélanger, les barman, les mixologues se sont mis à l'utiliser à outrance. Et là, ben, je crois que ça l'a vraiment excité beaucoup de passionnés qui voulaient se démarrer en affaires, ouvrir leur propre distillerie. Et le gin est, somme toute, quelque chose qui se fait bien, qui se fait rapidement et qui se fait surtout très bien avec les botaniques du Québec. Donc, je pense que c'est ça. Les gens ont vu une ouverture, les entrepreneurs ont vu une ouverture de la demande en gin. Tu peux regarder aussi les ventes à SAQ, puis tu vois que ça progresse rapidement dans les dernières années. Et je pense que là, tout le monde s'est dit, on va se lancer. On peut commencer avec de la vodka, du gin. Et le gin, c'est un parfum. Donc, on peut utiliser les aromates de notre terroir.
C'est une vodka aromatisée, finalement, un gin.
C'est tellement une belle façon de le décrire. C'est carrément ça. Dans le fond, le gin, c'est une vodka aromatisée d'abord au genièvre et ensuite avec une autre myriade d'ingrédients. Mais le genièvre, tout dépendamment comment tu le distilles, tu peux avoir des notes sapinées, des notes camphrées, des notes citronnées, poivrées. Donc, à partir de ce profil de saveur-là qui peut être un petit peu agrume ou un peu forestier, ben là, tu peux jouer avec une foule d'aromates. Et vraiment, là, je pense que cet engouement-là est mondial. On est rendu à 6600 gins environ dans le monde. Mais au Québec particulièrement, là, l'effervescence, elle a été... c'est un vrai tsunami. Là. T'sais, on parle de 2, 3, 4 nouveaux gins par semaine qui sortent sur les tablettes ces temps-ci.
Il y a quelque chose au Québec dans l'ADN, puis j'aimerais que tu m'aides à...
On va essayer de brainstormer,
définir un peu l'ADN du buveur québécois, parce que il est pas comme partout ailleurs. Je veux dire, l'amateur de bière que je suis, l'amateur de distillerie que je suis, comprend qu'au Québec, on a des bières de tous les styles de partout dans le monde, qu'on a des alcools de tous les styles de partout dans le monde, qu'on a des cocktails de tous les styles de partout dans le monde.
Exact.
Alors que si tu t'en vas en Écosse, mettons, ben, tu vas boire du scotch, puis tu vas boire des bières de type écossaise, puis si tu t'en vas en Belgique, tu vas boire des bières d'abbaye. Puis pourquoi au Québec, on a été capable de développer un terroir aussi diversifié?
C'est tellement, tellement cool ce que tu viens de dire là. J'adore ton podcast.
on
disait ça tantôt. En fait, c'est tellement des belles questions. C'est que, tout d'abord, il faut savoir qu'on a une ouverture sur le monde au Québec qui est unique. Tu regardes dans les concours de sommellerie, par exemple, du vin, les Québécois se démarquent tellement, et c'est très difficile pour quelqu'un qui vient, exemple, de la France, qui est endoctriné dans la culture française, de savoir bien identifier un vin chilien, par exemple, ou un vin du Nouveau Monde. Donc, on a une ouverture. La SAQ, c'est quand même unique, la diversité des produits qui sont ici. Puis, tous les gens qui viennent d'ailleurs le disent souvent, qui habitent au Québec un peu, c'est incroyable la diversité de produits. Fait qu'on part avec une ouverture, mais en même temps, étant donné qu'on n'a aucune culture réelle, je veux dire, on a eu le de Kuiper, mais on est une gang de colons qui aiment la bière, pas dans le sens idiot, mais vraiment, on a colonisé et on a fait avec ce qu'on avait sous la main. On avait des céréales, on a connu des époques de distillation. Finalement, avec la prohibition américaine, ça nous a beaucoup touché. Tout ça a fermé, mais on n'a pas la culture de l'amaro comme en Italie. On boit pas du pastis à 5h10 comme le trois quarts de la France. Donc, je pense que ça nous a apporté une ouverture, mais on a un petit côté encore, je crois, qui est très passionné de quelque chose. On est des sanguins au Québec, je pense. On l'a vu, là, dans les années 90, tout le monde, au dessert, buvait du Porto. Mais tout le monde, on est embarqué dans le Porto comme des fous furieux. Portugal devait nous regarder, c'est qui ces gars-là?
Ils viennent d'où?
C'est qui ces filles-là? Donc, je pense que quand on aime énormément. Pourquoi c'est tombé sur le gin? Je n'ai pas la réponse, je ne suis pas Dieu, mais certainement, quand on aime quelque chose, on aime quelque chose très fort. Et on l'a vu pour la bière, les gins, présentement, tout ce qui est produit est acheté. Donc, on n'a pas encore connu la saturation. C'est quand même impressionnant.
C'est vrai.
Quand même formidable.
Ouais.
Et pour la première fois, en juillet 2021, pas le nombre de bouteilles, mais les ventes en dollars de gin ont surpassé les ventes de vodka pour la première fois de l'histoire québécoise.
Okay.
Donc, on parle d'une catégorie qui augmente de 40, 50, 60 % chaque année depuis des années. Donc, tu vois que l'engouement est presque contagieux et c'est intéressant parce que le gin, ça fait parler. Ben, un peu comme le whisky, mais tu peux parler du producteur, tu peux parler de l'agriculteur qui est en arrière, tu peux parler des notes. Donc, c'est un facilitant à la conversation. Je dis souvent que mon livre, tout sur les gins, il va très bien sur une table de salon un petit peu ouverte, puis là, la discussion est partie.
Mais ça, tu as tellement raison, parce que, mais je suis sûr que s'il y a 10 ans, on t'avait dit, dans 10 ans, là, au Québec, là, autour de l'îlot, là, le monde va s'assiner sur c'est quoi le meilleur gin. Là. Mais c'est ça, là.
C'est ça.
Tu fais un 5 à 7, puis c'est comme, oh, non, moi, c'est Roméo, là. Non, moi, c'est ça. Ah non, moi, je ne jure que par le Kepler. Moi, c'est Siri, c'est Tadacon. Tu sais, le monde s'assine vraiment, puis ah oui, lui, il faut que tu essayes celle-là, je te connais, ouais. C'est dans ta palette. On est devenu des espèces de d'experts patentés. Tout un chacun.
D'ambassadeurs.
Oui, c'est ça, exactement. On dirait que la publicité se fait tout seul pour les producteurs. C'est magique pour eux, ça.
Oui, oui, absolument. L'engouement est tellement intense que le marketing, en fait, n'a pas à se faire. C'est le bon vieux bouche à bouche. Il y a beaucoup de fierté régionale aussi.
Oui.
Les distillers en région qui font valoir leur terroir. Moi, j'aime ça, là, goûter un gin. Puis, exemple, je me rends sur le bord de la baie des Chaleurs, puis, tu sais, ça sent minéral, je me sens sur le bord de l'eau. J'adore les gins qui me font voyager. Fait qu'il y a une fierté aussi nationale. Il y a un respect profond aussi de l'art de la distillation, je crois. Vraiment.
Oui. Ben c'est parce que je pense qu'on y voit encore une certaine magie en arrière de ça, tu sais. Puis même moi, j'ai brassé à petite échelle des petits brassins de bière chez nous, tu sais, je l'ai fait. Ouais. On a l'impression d'être des alchimistes quand on crée un brassin ou quand tu vois des distillateurs que j'ai visités, tu vois les, t'es comme wow, ok, les cuves, c'est incroyable. Fait qu'il y a une magie dans le processus de création. Est-ce que tu penses que la magie va durer?
Je pense que la magie va durer, définitivement. Je pense que la magie des gins n'est pas prête de s'estomper, mais tranquillement, pas vite, il y a des grandes et des grandes tendances qui sont en train de se dessiner. Si on se transporte, exemple, en 1880, le gin était maître. Le gin était l'alcool le plus consommé. Et à un certain moment donné, bon, il y a eu le mouvement de tempérance. Donc, c'était mal vu de boire. Ouais. Mais t'sais, à l'époque... Les gens étaient vraiment, vraiment paquetés. Si vous pensez qu'on boit beaucoup en 2021, regardez les statistiques. Exemple, juste en Angleterre, où la consommation était environ de 530 litres de gin par habitant, incluant les enfants. C'est quelque chose d'infernal. C'était un 40 onces par jour, pratiquement. Et aujourd'hui, on n'a pas le mouvement de tempérance, mais tu sais, on a eu beaucoup une culture d'excès, si je puis dire. Là, on essaie de boire moins, de boire mieux. Oui. Et je pense que c'est cette tendance-là qui va s'affirmer. Des cocktails sans alcool, des produits désalcoolisés qui va venir un peu, pas supplanter, mais qui va vraiment venir en parallèle. Donc, quand on va boire, on va vouloir boire quelque chose de recherché qui va nous amener quelque part. On va devenir de plus en plus difficile. Et il va avoir un peu comme dans la microbrasserie, il va avoir une espèce d'édulcoration qui va se passer où les gins vont prendre chacun leur place. Puis en parallèle, je pense que le mouvement du sans-alcool, du low ABV, c'est qu'on dit en anglais, donc de prendre des cocktails qui sont moins chargés, de prendre des bières qui sont plus légères, on le voit beaucoup dans la nouvelle génération. Là, c'est quelque chose qui est beaucoup mieux vu qu'à notre époque. Où,
chez les Z, vraiment, parce que les milléniaux, on a encore un peu cette culture. Bon, du coup, on l'a vécu dans une jeunesse folle, là, à l'époque où il y avait moins d'options, justement.
Ou pas plus tard qu'avant hier. Là, je vois des fois, c'est pas...
oui, c'est ça, exactement.
Tu peux pas amener un barman à Montréal et qu'il se passe à rien.
Non, c'est sûr.
Mais donc, oui, moi, je pense que ce qui va se supplanter, tu sais, oui, on va finir par sortir des rhums d'une extrême qualité, des whiskies. Je sais que l'acérum aussi, l'alcool de base fait à partir du sirop d'érable, va évoluer, va maturer. Mais en parallèle, je pense que le plus gros segment, définitivement, va venir du côté du sans-alcool.
OK, ouais.
Je crois.
Mais tu vois, j'ai essayé récemment, j'ai pu essayer Seedlip, là, ça, c'est de la qualité. T'as vraiment l'impression de boire. C'est de où, donc déjà, Seedlip? C'est pas québécois, ça, par exemple.
C'est anglais. C'est le premier spiritueux sans alcool là, qui a vraiment été distillé en alambic. On parle, tu sais, dans le fond, la distillation, là, c'est de venir chercher les aromates et de les concentrer. Pour ce faire, on les évapore. Et on va aller récolter l'alcool pur qui a emmagasiné, emprisonné les arômes. Normalement, on fait fermenter un mou. Fait que tu startes avec une bière, exemple. Ouais. Et là, tu vas ou du vin. Tu vas le faire distiller. Tu vas venir concentrer les arômes. Mais tu peux distiller dans l'eau. Donc, ça peut donner des hydrolats, des huiles essentielles, des extraits. Et l'art du sans-alcool, je le sais parce que chez Monsieur Cocktail, on s'est lancé dans l'aventure. Ça fait depuis 2014 que j'y pense, mais on s'est lancé officiellement cet automne. Et c'est vraiment l'art de distiller dans l'eau. Après ça, de venir recombiner cette huile-là qui est insoluble dans l'eau avec des bases qui sont légèrement alcoolisées et essayer de retrouver un univers de saveur qui est super intéressant. Seedlip, quand lui est arrivé dans le marché, ce qui a changé, c'est qu'il a dit, on va créer une base qui n'a pas d'équivalent avec l'alcool. Donc, quand tu goûtes un Seedlip, si tu t'attends à boire un rhum, un gin, ou ça marche pas.
Non,
c'est,
non, non.
C'est quelque chose d'autre. C'est un liquide aromatisé. Il faut, je pense, défendre cette nouvelle vague-là parce que, oui, il y a certains opportunistes qui vont juste mettre des arômes dans l'eau, par exemple.
Ouais.
Mais pour certains, il y a vraiment un travail de distillation. Tu sais, moi, je suis un cuisinier à la base, fait que on s'est fait connaître avec nos sirops, nos prêts à boire, mais j'aime ça jouer avec les saveurs, avec les jus frais, avec les infusions. Puis c'est comme une tendance qui est très, très, très... qui est assez balbutiement, il n'y a pas de code encore. Donc, je pense que ça peut devenir très intéressant si on reste ouvert. Mais c'est sûr que des fois, il y a des choses qui sont un peu moins...
C'est sûr.
Un peu moins goûteux. Il ne faut juste pas s'attendre à l'original.
Hey, tu m'as mis un petit gin en terminant que je peux goûter. C'est le Tuya, c'est ça?
Gin Tuya de Saint-Arsène, Aditiré, fils du roi, Jonathan et Hélène qui sont derrière ça. On est dans la forêt, randonnée. Oh. À 5 heures du matin, là, tu fais du portage pour aller à la pêche, ça sent les cèdres blancs. C'est...
On est là.
Très forestier. J'adore.
D'accord. Santé, Patrice. Et ton livre, Tout Santé. Sur les gins du Québec, est disponible en librairie. Je vous dis, c'est un sacré beau cadeau à offrir à la personne qui aime les gins ou les alcools, ou simplement à ajouter à votre collection, parce que c'est un livre magnifique qui trône, disons, fièrement dans mon bar avec une coupe d'autres livres puis des bouteilles. Alors, ça a été un plaisir, Patrice.
Un grand plaisir, vraiment.
À la prochaine.
Merci beaucoup.